Ok, ici de retour sur MetaLife, Creative Disturbance. Ça fait un certain moment que je voulais rencontrer mon invité d'aujourd'hui. Il s'appelle François-Joseph Lapointe. Bonjour François-Joseph.
Bonjour Yvan, ça va?
Ça va très bien. Comment est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
En quelques mots, eh bien oui, mon nom est François-Joseph Lapointe, comme tu l'as mentionné. Je suis principalement, mon vrai boulot, c'est, je suis professeur titulaire au département de sciences biologiques à l'Université de Montréal, ouais. Puisque c'est ma formation, je suis biologiste de formation. Or, après 15 ans d'avoir fait ce boulot de chercheur en biologie, j'ai décidé d'entreprendre des études doctorales. Oui, un second doctorat. J'étais assez fou pour faire ça.
Tu avais fait un premier doctorat en biologie.
En biologie, en 92. Et j'ai terminé en 2012 un doctorat en études et pratiques des arts, principalement en danse et performance.
OK. C'est pour ça que je voulais te rencontrer depuis un moment, parce que c'est d'ailleurs Roger Malina qui m'avait d'abord parlé de toi la première fois.
Parce que oui, Roger, qui était sur mon jury de thèse.
Voilà. Donc, je m'intéresse, moi, personnellement, au rapport entre performance et danse et biotechnologie, biologie en général. Et il se trouve que toi, tu fais des œuvres à partir de ton microbiome. On va essayer d'unpack tout ça, je ne sais pas comment on dit en français, de développer, de
disséquer,
ouais, ouais. De simplifier ces notions. Alors, est-ce que déjà tu pourrais dire ce que c'est que le microbiome et d'où vient ton intérêt pour ce concept en particulier?
Qui est plus qu'un concept, qui est enfin une réalité. Le microbiome, que certains appellent microbiote, mm-hmm. aussi, c'est l'ensemble des micro-organismes, principalement des bactéries, mais ça pourrait aussi être des archées, des virus et tout genre de parasites qui ouais. vivent sur notre corps et à l'intérieur de notre corps.
Ouais.
Et des études plus ou moins récentes. On sait depuis longtemps que toutes les maladies bactériennes, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a développé des antibiotiques mm-hmm. ou qu'on a développé des vaccins contre des virus, nous affectent. Mm-hmm. Mais ce que des études récentes ont démontré, c'est que si on devait dérouler sur un tapis l'ensemble des cellules qui constituent notre corps, ouais. 90% de ces cellules-là ne seraient même pas des cellules humaines.
Ça veut dire qu'en fait...
Sommes des bactéries.
Nous sommes des bactéries...
à 90%.
Des super-organismes.
Des super-organismes ou des super-individus ou des symbioses sur deux pattes.
Ouais.
Et on peut pousser la réflexion encore plus loin. Si on ne regardait pas simplement nos cellules, mm-hmm. mais les gènes qui ont des fonctions qui nous permettent de vivre, comme par exemple au niveau de notre estomac, mm-hmm. la digestion, mm-hmm. eh bien 99% des gènes de notre corps sont des gènes qui ne sont pas des gènes humains. Donc, 99%, 90% des cellules et 99% des gènes sont des gènes bactériens. Donc, sommes-nous encore Homo sapiens?
Du coup, est-ce que c'est la même chose pour les autres êtres vivants?
C'est vrai pour tout organisme vivant sur la planète, qu'il soit plante, qu'il soit insecte, qu'il soit animal.
Les plantes ont un microbiote?
Il y a tout ce qui vit un microbiote, tout ce qui ne vit pas aussi un microbiote, donc, qu'on appelle d'ailleurs le microbiome de l'environnement. Donc, okay. des gens s'intéressent à regarder dans notre chambre à coucher, est-ce que c'est sur le lit, la table de chevet, le plancher,
ouais.
Qu'il y a la diversité bactérienne est la plus grande, sur la semelle de tes chaussures mm-hmm. ou sur plutôt les touches de ton téléphone portable.
Ouais.
Il y a des études qui démontrent effectivement qu'on peut identifier les individus en fonction de la signature bactérienne qu'on aura sur leur téléphone.
Mm-hmm.
Donc, il y a ce qu'on appelle un biofilm, qui est donc
ouais.
une mini-couche de bactéries qui vivent en communauté qu'on trouve partout sur la planète.
D'accord. Donc, ça veut dire que les notions d'espèces, si je comprends bien, Homo sapiens ou d'autres espèces animales, telles qu'on les a définies, catégorisées, en fait, peut-être que ça ne correspond pas du tout, en réalité à leur nature profonde, en fait. Ça.
En fait, ça va même plus loin que la notion
d'un chat n'est pas un chat, un chien n'est pas un chien.
Ben, en fait, un chat est un chat, puisqu'on le reconnaît comme un chat, puis on va reconnaître ce qui est un humain.
Ouais.
Mais la composition en termes cellulaires ou en termes génétiques de ces organismes-là, est une symbiose. Comme les cellules eucaryotes, comme celles qu'on a chez les humains, ben c'est une symbiose, une endosymbiose de les mitochondries qui permettent à nos cellules de respirer, mais c'est une cellule qui a pénétré dans une cellule il y a de ça très longtemps. Donc, on a un héritage bactérien, on a un héritage viral qui remonte à très longtemps, mais ce que les études du microbiome nous démontrent, c'est qu'aujourd'hui, au quotidien, on est en symbiose totale avec ces organismes-là qui nous constituent et qui nous permettent de survivre. Si on utilisait une dose massive d'antibiotiques qui nous délestent de toutes nos bactéries du jour au lendemain, on va crever.
OK. Non, d'ailleurs, je profite pour te poser la question tout de suite avant que j'oublie, parce qu'on discute à chaud. On était dans un panel de discussion tout à l'heure sur EcoSex et... et du coup...
Oui, c'était un drôle de panel.
Et donc, non, mais il y a eu plein de commentaires venant du public. Et ton commentaire à toi a généré beaucoup de questions, beaucoup de désaccords, d'accord, et tout ça. Et ce que je me disais à la fin, c'est donc, il y a quelqu'un qui a parlé de cette idée de la vie étant comme un... Comment dire la vie, c'est comme une espèce de champ de bataille en permanence où, grosso modo, ça reflète l'idée de la sélection naturelle, en fait, où c'est le plus fort qui gagne et c'est comme ça que le processus de vie avance. Et là, on est en train de parler de symbiose. Et je me souviens aussi avoir lu les premières pages, faut que je le finisse, de Science of Life, édité par Eduardo Katch, dans laquelle il dit que la définition darwinienne qu'on attribue à la vie aujourd'hui, selon laquelle c'est un processus de sélection naturelle et donc pas un processus de symbiose, enfin aussi, mais ça vient en seconde position si tu veux, s'est développé aussi au moment où le capitalisme était en plein essor, enfin à la fin du 18e siècle, vraiment la version moderne du capitalisme telle qu'on la connaît depuis. Et donc, en fait, que cette définition de la vie n'était pas politiquement neutre. Donc là, je t'entends parler de symbiose, juste avant qu'on oublie et qu'on revienne aux histoires de microbiome et de performance. Quel est ton avis là-dessus et comment tu... Plutôt symbiose ou plutôt sélection?
Ben, il est vrai que, de toute façon, à l'époque où Darwin a écrit l'origine des espèces, n'oublions pas le contexte de l'Angleterre victorienne, il y avait des luttes de pouvoir politique et de religion. D'ailleurs, ça a été très long avant qu'il ose sortir ce fameux texte. Et ce que j'aime toujours répéter à mes étudiants, c'est que Darwin, c'est pas la Bible. Il y a beaucoup d'erreurs dans Darwin. L'erreur principale qu'il a fait, c'est qu'il connaissait rien à la génétique, il connaissait rien à l'hérédité. Et la deuxième erreur, c'est qu'il...
Ça n'existait pas encore.
En fait, ça avait été découvert avant lui, mais il n'était pas au courant, des travaux de Mendel. L'autre erreur que Darwin a fait, ce n'est pas de sa faute, c'est qu'il ne connaissait rien du tout des bactéries. Donc, son modèle est basé sur la reproduction, revenons au sexe, c'est un modèle basé sur la reproduction sexuée, alors que la très grande majorité des espèces sur Terre se reproduisent de façon asexuée. Et la reproduction asexuée crée un type d'assortiment qui est plutôt de forme rhizomatique ou de forme d'un réseau, alors que la seule figure que dans l'origine des espèces, c'est la fameuse généalogie, la phylogénie, cette fameuse métaphore de l'arbre de la vie. Or, l'arbre de la vie, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on l'a complètement abattu. C'est d'ailleurs la page première du New Scientist il y a quelques années. Darwin was wrong. Et en quoi Darwin avait tort, c'est que ce n'est pas l'évolution ne se représente pas de façon... uniquement par un arbre, parce que naturellement, les bactéries s'échangent des gènes les uns avec les autres. Et donc, pour revenir à la notion de symbiose, il est vrai que quand on regarde des bactéries, la manière dont elles évoluent, c'est beaucoup plus par coopération, par échange de gènes, par transfert horizontal de gènes, par un ensemble de gènes qui sont dans l'environnement, qu'ils s'échangent et qu'ils peuvent aller chercher quand ils en ont besoin.
Est-ce qu'ils s'échangent ou est-ce qu'il y a aussi là des rapports de force?
Il y a certainement des rapports de force. Et donc, pour revenir à la théorie de la sélection naturelle que les gens caricaturent toujours comme étant la loi du plus fort.
Ouais. Ben, c'est ce que je viens de faire.
Effectivement, mais c'est simplement qu'il y a de la variation dans la vie, puis il y a la nature choisie. Mais plus fort aujourd'hui ne veut pas dire plus fort demain. Ça va être le plus rapide, ça va être le plus beau, ça va être le plus gros. Okay. Mais des expériences nous montrent qu'être plus gros dans une situation où les terriers sont rendus tout petits, mais on ne réussit pas à rentrer dans un terrier. Puis des fois, être plus petit, ça peut nous avantager. Des exemples nous montrent que des fois, d'avoir la peau noire ou d'avoir la peau blanche va permettre de survivre dans un milieu en fonction du camouflage.
Ouais.
Donc, c'est pas un concept théologique, l'évolution, c'est un concept basé sur le hasard, mm-hmm. par lequel un filtre vient mm-hmm. s'ajouter sur le dessus. Or, il y a de plus en plus de gens qui démontrent que la symbiose est effectivement aussi une force évolutive. Donc, la coopération et non pas simplement la compétition.
Mm-hmm.
Et la coopération avait complètement été presque ignorée par Darwin. Et c'est naturellement ce qui a été repris politiquement dans des luttes de classe et des luttes de pouvoir, même dans du darwinisme social. Et on sait jusque tout ça peut nous mener. Or, la coopération, l'altruisme, etc., sont également des forces qui existent dans la nature. Et au niveau des bactéries, ça fonctionne aussi de cette manière-là. Il y a compétition, mais il y a aussi de la coopération.
OK. Mais juste pour boucler ce panel sur Ecosec, si je poursuivais ton idée jusqu'au bout, ce serait, pour revenir à l'idée de microbiom, c'est que, en fait, il y a une orgie permanente dans notre corps, c'est ça?
Il y a une orgie permanente, effectivement, dans notre corps, mais qu'est-ce qu'on appelle une orgie? D'ailleurs, c'était même ma question au panel d'Écosex. Quand la majorité des organismes vivants sur Terre ne se reproduisent de façon asexuée,
mm-hmm.
est-ce qu'on peut vraiment parler d'une orgie ou est-ce qu'on parle simplement plutôt d'un échange global de gènes
mm-hmm.
de manière verticale, horizontale, latérale? Donc, utilise le mot orgie si tu l'aimes, mais c'est un échange, je dirais, multidirectionnel de matériel génétique et qui permet donc à ces organismes-là d'évoluer.
OK. Bon, il nous reste moins de 10 minutes dans le podcast. Je voudrais quand même qu'on parle de ta pratique artistique parce que tu n'es pas seulement biologiste, tu es aussi t'es performeur, tu es un artiste. Donc, tu fais des performances, des danses, enfin, tu chorégraphies des choses à partir du coup de ce matériel génétique-là. Alors, quelle est la généalogie du projet et comment ça se traduit en termes pratiques dans la vie, dans l'espace réel, quoi?
Bon, en 10 minutes, on ne peut pas faire toute la généalogie. Je vais essayer plutôt de résumer en deux temps mon parcours.
Ouais.
Premier temps, c'est à ce moment-là que j'avais rencontré Roger Malina. C'est la thèse que j'ai réalisée en études des pratiques des arts, qui était mm-hmm. principalement en danse,
mm-hmm.
où j'ai développé un champ de recherche et de pratique que j'appelais la choréogénétique, qui est en fait de remplacer le chorégraphe par une molécule d'ADN et de demander aux interprètes, ou à moi-même, j'ai aussi interpréter mon propre ADN, de danser finalement les quatre lettres de l'alphabet que représente le code de la vie, A, T, C, G. Donc mm-hmm. il y a quatre mouvements qu'on répète de façon presque aléatoire, mais qui est dicté par la séquence des A, T, C, G qui me représentent, qui peuvent te représenter. Et la partie performative, bien sûr, parce que c'est de la danse, c'est que c'était toujours interprété dans un espace public,
mm-hmm.
Comme un spectacle de danse contemporaine ou de performance dans l'espace public,
mm-hmm.
mais assisté d'assistants qui revêtaient l'uniforme de laboratoire, donc la blouse blanche, et qui servaient d'intermédiaire entre le public et la performance pour expliquer la génétique. Pour expliquer, ça s'appelait organismes génétiquement mouvementés, pour mm-hmm. expliquer des OGM. Donc, avec des OGM, on peut aussi faire de la danse. Par la suite, j'ai eu la chance de passer une année sabbatique à Paris, dans un laboratoire avec des microbiologistes
mm-hmm.
et des gens qui s'intéressaient donc à des modèles que je ne connaissais pas du tout. Moi, ma formation était plutôt sur les mammifères.
Mm-hmm.
Et c'est en revenant chez moi à Montréal, donc après 2009, que j'ai commencé à m'intéresser au modèle des bactéries. Et donc, cette découverte presque aléatoire, en travaillant avec des nouveaux collègues, ben, m'a inspiré mes nouvelles pratiques artistiques, d'où les recherches sur le microbiome maintenant.
Mais est-ce que, par exemple, ta prétention, entre guillemets, serait de renouveler, par exemple, la notation Laban, mais à partir de matériel génétique? J'en sais rien.
Oui, la notation Laban ou la notation Benesh. Mais en fait, c'est plus vraiment de la danse, maintenant, les performances que je fais. Donc, par exemple, ici, je vais dans deux jours faire une performance qui s'appelle... les 1000 poignées de main. Ouais. Donc, 1000 poignées de main, 100 ans que je vais dans la rue et je serre la main au plus grand nombre de personnes possibles que je peux rencontrer dans une journée. À date, mon record est 1618.
Et, pour capter leur microbiome.
Et en fait, c'est ça. C'est pas simplement serrer la main. J'ai naturellement un compteur dans ma main gauche et je le serre la main de ma main droite. Et à chaque 50 nouvelles poignées de main, j'échantillonne la paume de ma main pour récolter les bactéries que j'ai accumulées, mais également distribuées aux gens que j'ai rencontrés. Ouais. Pour voir, en fait, dans cet exercice d'échange, en quoi mon microbiome va être changé, en quoi l'interaction avec le public modifie la personne que je suis, parce que si nous sommes à 90% bactéries, ben quand je capture les bactéries de l'environnement ou quand je capture les bactéries des personnes qui sont venues me rencontrer, je change ma propre composition. Et je réalise cette performance-là dans différents lieux. Donc, à date, je l'ai fait à Montréal, je l'ai réalisé à Copenhague, à San Francisco, là, je l'ai fait en Australie. Je devrais la faire à Berlin l'année prochaine. Et puis, ça me permet de regarder aussi la dynamique de contamination, si on veut, entre guillemets. J'aime pas le mot-là parce qu'il y a une connotation négative, mais la dynamique de contamination ou d'accumulation de bactéries sur ma main en fonction des différents lieux que je visite.
D'accord. Je voudrais revenir quand même sur l'aspect beaucoup plus scénique. Les enjeux scéniques que ça pose. Alors, quels sont les obstacles? Je ne sais pas si tu as une formation aussi dans l'esthétique théâtrale ou de la danse, des choses comme ça. Mais comment est-ce que tu traduis des concepts comme, enfin, des notions comme celle de présence, d'éphéméralité en danse par exemple, ou de, d'action comment est-ce que tu incarnes une bactérie sur scène? Comment est-ce que tu...
Il n'y a pas du tout de transfert. Les gens pensaient, quand j'allais danser mon ADN, que j'allais faire des vrilles comme si j'étais une double hélice. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. La même chose quand c'est le microbiome qui m'intéresse. Je ne me prétends pas être une bactérie. En fait, je m'inspire de deux courants, si tu veux, l'in situ. Donc, il n'y a pas de performativité théâtrale avec un quatrième mur. Donc, c'est toujours dans l'espace public, le moins souvent possible.
La rupture du quatrième mur.
Tout à fait. Et il y a directement rencontre avec les spectateurs, le public, qui ne sont jamais conviés. C'est des gens que je rencontre par hasard dans la rue. Et même une discussion s'engage avec eux pour expliquer le projet. Donc, il y a un aspect, d'in situ, il y a un aspect d'esthétique relationnelle.
Ouais.
Donc, c'est vraiment dans le relationnel qui est mon travail. Même dans la choréogénétique que je faisais, un des mouvements, c'était de prendre une des personnes du public dans mes bras. Donc, c'était la lettre G pour le hug. Donc, je serrais quelqu'un dans mes bras. Donc, il y a toujours cet aspect-là. Et en plus, il y a le deuxième niveau, des assistants qui sont toujours avec moi, qui servent un peu d'intercesseurs entre le monde de l'art et le monde de la science, ou des médiateurs ou des traducteurs, je les appelle de différentes façons, qui expliquent un peu c'est quoi le projet. Si ces personnes-là n'étaient pas là, ou si moi je n'expliquais pas, ça peut avoir l'air d'un projet de performance ou d'art contemporain ou de danse standard. Moi, j'appelle cela des performances expériences ou expérimentations, parce qu'en même temps, je récolte aussi des données scientifiques dans le cadre du microbiome ou dans le cadre de la danse. Ben, c'est basé sur des données scientifiques, la chorégraphie. Donc, c'est pas uniquement l'aspect performatif, c'est aussi l'aspect expérimental qui m'intéresse dans ce que je fais. Et pour ça, effectivement, il y a pas de persona. C'est moi, comme scientifique, qui est là et qui interprète mon propre personnage et qui je suis.
Mais écoute, ça me paraît être un écueil aussi dans l'art biotechnologique en général. Il se pose toujours cet enjeu didactique, le besoin d'expliquer, et du coup l'art se transforme en une sorte de médium ludique ou à visée éducationnelle. Tu t'inscris parfaitement dans ce courant-là. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que l'art est fait pour éduquer en quelque sorte, et qu'il faut éduquer les gens à...
Ben, je donne souvent l'exemple que si j'annonçais une conférence sur le microbiome à l'université, il y aurait 3 pelés, 2 tondus qui viendraient, qui sont déjà intéressés à la question et qui en ont entendu parler parce qu'ils sont abonnés à un podcast scientifique et que les gens de la rue n'en entendraient pas parler. Moi, en allant dans la rue et en rencontrant des gens qui souvent n'ont jamais entendu parler de génie génétique, n'ont jamais entendu parler du microbiome, et j'ai cette expérience-là à chaque fois que je fais la performance, oui, il est vrai qu'il y a il y a une partie qui est éducative dans ce que je fais. Mais d'un autre côté, j'aimerais dire que le bio-art, si on n'explique pas toutes les couches méthodologiques qui sont sous-jacentes, les gens du public ne peuvent pas comprendre. Ça se rapproche à ce niveau-là beaucoup, à mon avis, de l'art conceptuel. Tu rentres dans une galerie, puis il y a un fil qui est pendu au mur, puis ça s'appelle tension. Puis tu dis, c'est un fil. Puis là, si tu ne comprends pas que cette tension-là, c'est parce que c'est des cheveux, et c'est les cheveux de ma grand-mère quand j'étais en prison, ces trucs-là. Donc, pour moi, il y a un lien.
L'aspect conceptuel ne t'intéresse pas tant que ça, en fait.
En fait, l'aspect conceptuel m'intéresse, mais ce qui est intéressant dans l'aspect conceptuel, c'est pas nécessairement le résultat, c'est le processus et c'est la question. Donc moi, je discute beaucoup du processus qui m'amène, par exemple, à faire ces partitions chorégraphiques-là, ou de qu'est-ce que je vais faire avec les poignées de main une fois que je les ai récoltées. J'en produis des égo-portraits de mon microbiome par la suite, parce que je retourne au labo, les échantillons, je séquence l'ADN, puis dans des séquenceurs automatiques, et je génère des milliers de séquences comme ça. Ça me permet aussi de faire des œuvres plus plastiques, si on veut. Donc, la performance, c'est un médium qui permet de récolter des données scientifiques, que j'utilise même dans le cadre de présentations scientifiques et de publications scientifiques, mais que j'ai récolté, non pas dans une expérience scientifique, j'ai récolté dans le cadre d'une performance artistique. Donc, c'est là, pour moi, qu'il y a une zone d'hybridation dans ce que je fais. Quand je fais de la science à 100%, je ne pense pas à l'art. Quand je fais de l'art à 100%, je ne pense pas à la science, mais si l'art me permet de récolter des données scientifiques, c'est là que j'atteins finalement mon fantasme de d'hybridité ou de symbiose art-science. C'est que le même objet peut servir deux fins.
C'est l'idée que l'art sert aussi à la recherche, en fait.
L'art peut servir effectivement à la recherche.
OK. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais je voudrais quand même juste, si tu peux me dire en 2-3 mots, en quoi va consister ta résidence à Paris à venir?
En fait, je vais être à Paris l'année prochaine pour 1 an, principalement pour travailler avec des collègues biologistes à Paris 6, donc à l'UPMC, l'Université Pierre-Marie Curie, et au Muséum national d'histoire naturelle. Mais également, j'ai l'intention de profiter de ma présence là-bas pour participer à plusieurs événements artistiques aussi. Donc, j'aimerais bien répéter les fameuses 1000 poignées de main à Paris. Pourquoi pas lors de la Nuit blanche de Paris, puisque je l'ai fait à la Nuit blanche de Copenhague, je l'ai fait à la Nuit blanche de Montréal. Donc, c'est facile, à la Nuit blanche, j'ai même pas besoin de m'inscrire. Je vais dans la rue, puis je vais certainement trouver en quelques minutes 1000 personnes. Ouais. Donc, c'est une des choses que je veux faire. Et donc, je vais voir avec les gens qui sont sur place comment essayer de m'intégrer à différentes autres activités scientifiques. Il n'y a rien de déterminé à coup sûr pour le moment.
OK, merci beaucoup.
Merci.
On va s'arrêter sur cette note. Merci.